Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un seigneur de la culture et du journalisme, Patrick De Carolis. Bonjour Patrick.
Ben bonjour, comment ça va ?
Bien, très bien. Je suis très heureuse de te recevoir ici au micro de Radio Cité Genève.
Ça fait longtemps qu'on devait se rencontrer.
Ça fait très longtemps qu'on voulait faire cette émission. Mais tu es un monsieur très occupé, comme on va le voir. Donc, je vais te poser la question rituelle dans cette émission. Quel petit garçon étais-tu ?
Je crois que j'étais un enfant plutôt sage, plutôt effacé, à l'écoute, sans doute timide. J'étais sans doute grand avant l'âge, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance arlésienne et une enfance qui s'est terminée à 8 ans. Je dis qu'elle s'est terminée à 8 ans parce qu'après, je suis allé dans une grande ville.
Qu'est-ce que c'était que cette grande ville, Montpellier ?
Montpellier, j'ai suivi mes parents pour des raisons économiques, ont quitté Arles et sont allés travailler dans une grande ville. Et donc, nous aussi, les enfants, nous avons suivi. Et à partir de là, j'ai dit que mon enfance s'est arrêtée à 8 ans parce que, eh bien, à Montpellier, on ne jouait plus dans la rue.
Il fallait faire attention. En Arles, on jouait dans la rue.
Ah oui, il fallait faire attention aux voitures. Et puis, voilà. Et puis, j'ai commencé là la danse et puis le théâtre.
Alors, j'ai vu que tu te destinais à la danse classique.
Je ne me destinais pas à la danse classique, je faisais de la danse classique.
Mais tu voulais en faire un métier?
Je voulais faire de la danse, du théâtre pour faire de la comédie musicale.
D'accord.
Et puis, j'ai tout arrêté à 17 ans pour faire du journalisme et monter à Paris.
Alors, pourquoi du journalisme?
Parce que peut-être que j'ai ce souvenir d'avoir entendu et vu à la télévision à l'époque une interview d'un comédien, d'un très grand comédien, qui disait « Toute ma vie, j'ai construit ma personnalité à bout de rôle ». Et à 17 ans, quand vous êtes en recherche, en quête d'une personnalité, de votre identité, vous êtes à 100% dedans, vous êtes un ultra quelque part. Et là, je me suis dit, mais alors, toute ma vie, je vais jouer des rôles, ce ne sera pas moi, je vais comme ça, j'ai envie d'être moi. Et je pensais que le journalisme, l'écriture me permettrait d'avoir ma personnalité, non pas celle des autres ou celle acquise à bout de rôle. C'est comme ça que 40 ans ou 45 ans après, j'interprète cette décision. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui sont intervenus,
je ne sais pas. Et là, Patrick, tu as quitté Montpellier, alors?
Et là, j'ai quitté Montpellier pour Paris, d'abord Strasbourg, où j'ai passé un examen dans une école de journalisme où on m'a fait comprendre que je n'étais pas fait pour ce métier. Et puis, et puis je suis allé à Paris, donc rentrer dans une autre école de journalisme et j'ai fait ma carrière.
Alors, donc tu es à Paris, tu as laissé le soleil derrière toi. C'est vrai, parce que Paris, ce n'est pas forcément du soleil. Quand on a été élevé dans le midi, on a quand même une autre vue sur les gens et les choses. Là, ces impressions à Paris, parce que quand on arrive du midi, on trouve Paris très froid, on trouve des Parisiens très glacés, non ?
J'ai eu la chance d'aller à Paris, moi, avec des amis, c'est-à-dire d'y retrouver des copains, des amis, filles également, et de partager, c'était déjà l'époque où on partageait son appartement avec des amis, parce qu'on
n'avait pas...
En coloc, on n'avait pas les moyens. Donc j'ai un souvenir très agréable de cette époque où, pour gagner de l'argent, et parce que les parents ne sont pas riches et vous assurent le loyer et un petit peu du reste, et bien il vous faut, pour les à côté, gagner un peu son argent de poche. Donc j'étais veilleur de nuit dans la tour Kodak du 12e arrondissement et je livrais des journaux, je livrais à 4h du matin le lait dans les rues, etc. Donc j'avais des occupations avec des amis comme ça où on se faisait un peu d'argent de poche.
Et tu rentres finalement à TF1 à quel âge alors ?
Je rentre
ça a été ton premier poste.
Je rentre d'abord à France 3. J'avais pas 20 ans. Et puis à TF1, j'avais pas 21, donc c'est allé assez vite, oui, puisque j'ai eu mon bac en 72, je suis né en 53, j'ai eu mon bac en 72, et mon premier poste à TF1, c'était 75, donc j'avais pas 21 ans.
Alors, tes premières impressions quand tu rentres dans le monde du travail, parce que les petits boulots, c'est une chose, mais le monde du travail, c'en est une autre.
Bien, on est émerveillé. À l'époque, on espérait côtoyer les grandes vedettes et les grandes signatures de l'époque. C'était Mourouzi, c'était des gens comme ça qui...
Ça te faisait rêver ?
Oui, en tout cas, ça m'attirait. Je ne sais pas si ça me faisait rêver, mais ça m'attirait. Je me souviens de mon grand-père quand je lui disais, j'avais 14 ans, je lui disais, oh, j'aimerais faire du journalisme un jour. Tu sais, j'adore écrire et puis j'écrivais déjà de la poésie, des petites pièces de théâtre. Et alors, il avait été dans son quartier à Arles, l'un des tout premiers dans les années 50 à avoir un poste de télévision. Et tous nos amis et tous mes copains de classe venaient chez nous regarder cette télévision en noir et blanc. Et un peu plus tard, quand je lui ai dit, vers les 14 ans, que je voulais être journaliste, il me dit « Ah, mais le journalisme à la télévision ?» Je dis « Oh, ça, je sais pas, on commencera peut-être par la presse écrite, puis on verra. » Il me dit « Parce que là, si un jour t'es journaliste à la télévision, alors c'est formidable. » Mais c'était, pour nous, pour lui et pour moi, inaccessible, parce qu'on ne connaissait personne, c'était très loin. Voilà, c'est, je crois qu'il y a des hasards heureux dans la vie.
On écoute un peu de musique, Patrick.
Volontiers.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Patrick de Carolis. Patrick, on a vu que tu étais un petit garçon assez heureux, finalement, en Arles, que tu es passé ensuite à Montpellier, à Paris. Tu as fini tes études, tu es rentré dans le journalisme. Et là, tu commences à faire un certain nombre de choses parce que tu as fait toutes les bonnes maisons, en quelque sorte, si je puis dire.
Il en reste quelques-unes, mais j'en ai fait pas mal, oui.
Donc, tu as commencé par FR3, tu es allé à Antenne 2, tu es allé à TF1.
Oui, FR3. À l'époque, on disait FR3, effectivement. Après, c'était TF1, puis après Antenne 2. Puis, je suis parti sur la 5, où j'étais un des pionniers de la 5 avec Robert Hersant.
Alors, justement, Robert Hersant t'a appelé pour faire des magazines, des documentaires.
Oui, en fait, c'est pas lui directement qui m'appelle, c'est Patrice Duhamel qui travaille avec lui et qui cherche à constituer une équipe autour de Robert Hersant. Et il y avait à l'époque Philippe Ramon, Jean-Marie Cavada, Patrice Duhamel. Et puis ils m'ont appelé pour réfléchir sur ce que pourraient être les futurs magazines de cette chaîne, puisque à l'époque il n'y avait pas de chaîne privée. Et François Mitterrand avait lancé l'idée de créer en France un secteur de chaînes privées. C'est comme ça que TF1 est devenu privé et que sont nées les chaînes comme La 5 à l'époque, M6, qui voulait dire Métropole Télévision 6.
Et j'ai vu que tu avais fait aussi une émission de téléachat. Chouchou.
Ah, c'est vrai. Tiens, dans les multiples émissions que j'ai créées, il y avait non seulement cette émission de téléachat, mais il y en avait d'autres plus.
J'ai vu aussi en 1990 une émission érotique.
Oui, une émission. Désir. Absolument, qui s'appelait Désir. En fait, je dirigeais les magazines de la chaîne et j'avais créé Reporter, j'avais créé Formule Homme, j'avais créé également un magazine d'évasion. Et donc, on m'avait demandé si je pouvais aller aux États-Unis négocier les droits de Playboy Channel, des droits d'image un peu coquines. Alors, c'était pas les films érotiques de Canal Plus, hein.
Non.
Mais on était dans le coquin et j'étais allé à Los Angeles négocier toutes ces images. Et alors, on ne pouvait pas appeler cette émission Playboy ou Playboy Channel, donc on l'a débaptisée et on l'a appelée Désir.
Désir.
Voilà. Donc Dieu, c'est une des émissions
que
j'ai pu créer.
Et alors après ça, Zone Interdite.
Et après la mort de la 5, en 92, je suis passé sur M6, où Nicolas de Taverneau m'a appelé pour diriger à la fois les magazines et l'information sur M6. Et c'est là que j'ai créé, en 93, l'émission Zone Interdite.
Alors, c'est un magazine d'information dominicale, hein, je crois, c'est
oui,
ça?
Oui, c'était le dimanche soir. Un magazine qui avait pour publicité le label suivant. Comme on avait mis ce magazine un dimanche soir face au film de TF1, la soirée était assez inédite, singulière, en contre-programmation. Et alors on disait, nous, sur M6, la réalité est plus forte que la fiction.
Mon Dieu. C'était un beau slogan, ça.
Ouais.
Et alors de tout ça, de cette période-là, comme ça, tu retiens quoi?
J'ai toujours eu des périodes, je touche du bois, j'ai toujours eu des périodes heureuses. Quand je me retourne comme ça et je suis en train d'écrire un livre de souvenirs de télévision...
On va parler tout à l'heure de ton activité d'écrivain.
Je me retourne et j'ai toujours eu des périodes, je dis pas faciles, mais en tout cas heureuses. Et que ce soit sur la 5, que ce soit mes débuts à France 3 ou sur TF1, et un peu plus tard après le retour sur France Télévisions et la présidence de France Télévisions, j'ai toujours eu des périodes passionnantes pour moi.
Je voudrais parler maintenant, bien entendu, de ce que le grand public a le plus retenu de toi, c'est-à-dire des racines et des ailes. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. D'abord, le titre est magnifique. Le titre
c'est
vient...
C'est un magazine que j'ai créé en 97. Et là aussi, c'est le titre m'est venu quand j'ai lors d'un dîner avec entre amis, comme on peut en faire entre nous, où on parlait de l'éducation des enfants. Et comme tu le sais, j'en ai 4. Et donc moi, à un moment donné, j'ai sorti cette phrase en disant moi, ce que j'ai envie de donner à mes enfants sont des racines et des ailes. Comment m'est venue cette formule? Je n'en sais rien. Sans doute par des lectures que j'avais pu faire précédemment. Et j'ai déposé le titre. On a créé l'émission des racines et des ailes. Et un an après, je reçois un courrier d'une téléspectatrice qui me dit, mais vous savez, ce titre, c'est un proverbe sanskrit qui veut dire que la plus belle des choses que l'on puisse donner à ses enfants, ce sont des racines et des ailes. Où est-ce que j'avais lu ce poème? J'ai essayé de savoir, et je pense que c'est en lisant quand j'étais jeune, à l'âge de 17 ans, je devais feuilleter beaucoup de livres, et c'est comme ça que ça a dû s'imprimer dans un des tiroirs de la mémoire.
En tout cas, au-delà du titre, c'est un programme qui a marqué tout le monde.
Oui, alors vous savez, au début, quand j'ai dit je vais appeler ce magazine Des Racines et des Ailes, le directeur des programmes de l'époque m'a regardé.
Il a trouvé ça un peu intellectuel.
Il m'a dit, mais est-ce que c'est pas trop, non pas intellectuel, mais littéraire.
Littéraire, oui. Et alors là, c'est un programme bimensuel de reportage culturel quand même, c'est un peu ça,
oui.
Et puis qui bouge beaucoup, qui se promène, qui fait découvrir la France.
Il a 17 ans maintenant d'âge,
oui.
Il a 17 ans d'âge, ça devient
incroyable.
Un bon...
Il n'a pas pris une ride.
J'espère en tout cas.
Il n'a pas pris une ride. Donc tu en as à la fois le rédacteur en chef, le coproducteur, le présentateur.
Oui, en fait j'étais le producteur artistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai plus de lien de propriété sur ce magazine. Ce magazine, tout comme Zone Interdite, je les ai créés lorsque j'étais salarié des chaînes. Donc Zone Interdite appartient à M6, Des Racines et des Ailes appartient à France Télévisions. Voilà, je ne suis pas propriétaire de ces magazines.
Tu as fait d'autres magazines aussi par la suite?
Oui, j'ai créé Le Grand Tour, dont
Grand
je
Tour.
Suis très fier, et qui malheureusement
oui.
s'est arrêté.
Alors, il y avait 4 destinations, je crois, Naples, Barène, l'Écosse et New York.
Oui, ça, c'était dans le premier.
Ça, c'était dans le premier. Et après, tu en as repris un autre.
J'en ai fait 13 comme ça, ouais. 13 fois 4 destinations. Donc, c'était... oui, j'ai passé mon temps un petit peu dans les avions ces dernières années.
On écoute un peu de musique maintenant, si tu veux bien.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Avec Patrick de Carolis. Patrick, on a vu que tu étais quelqu'un d'extraordinairement inventif, créatif, foisonnant, tous ces programmes, toutes ces casquettes différentes. Et il y a un moment où tu quittes France Télévisions pour le privé, tu deviens directeur général du Figaro Magazine. Alors ça, c'est encore un autre exercice.
Alors, je quitte pas tout à fait France Télévisions, c'est-à-dire je cumule.
Tu cumules, c'est encore pire.
C'est-à-dire qu'en plus, je prends la direction générale du Figaro Magazine. C'était pour moi, là aussi, une période très heureuse parce que je rêvais de diriger un magazine. Alors, lequel, je ne savais pas. Et puis, un jour, Yves de Chaise-Martin, qui dirigeait le groupe du Figaro, et Patrice Duhamel me propose de prendre la direction générale de ce magazine qui était un des fleurons de la flottille à l'époque
Hersan, absolument.
Et de succéder comme ça dans le même bureau que de Powels et d'autres qui avaient dirigé ce magazine m'impressionnait et j'ai été heureux pendant 4 ans et demi et puis après j'ai quitté le groupe. Parce que je me suis préparé à la présidence de France Télévisions.
Voilà. Alors, j'ai vu que tu avais été élu contre l'avis du gouvernement. Ça, c'est assez fort. Parce qu'en France...
Oui, c'était le gouvernement à l'époque était dirigé par Dominique de Villepin. Le président était Jacques Chirac. Et Ils avaient d'autres idées. Voilà, ils pensaient que mon prédécesseur, qui faisait bien son travail, et donc ils voulaient le reconduire.
C'était Marc Tessier, je crois.
C'est voilà, exactement. Et donc, comme c'est une élection, eh bien, je me suis présenté. Et les sages du CSA ont estimé que le projet que je proposais pour France Télévisions, qui était un projet tourné vers la culture, vers un rééquilibrage, vers ce mariage de l'audience et de la qualité, pouvait avoir ses chances. Et j'ai été élu.
Alors ça, c'est très important, parce que je crois que tu as voulu rendre son identité au service public, qui s'était un peu dévoyé en essayant de copier les télévisions privées. Et tu avais une très grosse ambition en matière de programmes de culture, de découverte. Tu t'es appuyé sur des hommes et des femmes qui t'avaient suivi dans tes différentes, expériences et parcours.
Oui, moi je pense que...
C'est très important.
Je pense que si on a un service public en France, ça doit vouloir dire quelque chose.
Voilà.
Que le service public, c'est un outil. Que c'est un outil au service du pays et donc au service, je dirais... des faiblesses du pays, c'est-à-dire que c'est un outil qui doit nous permettre de corriger certaines faiblesses. Et je pense qu'aujourd'hui, cet outil, on doit l'utiliser en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de lien social, et que tout ça doit nous donner envie et doit générer, à travers la créativité de nos talents, des programmes, ces programmes-là qui doivent être au service de la société.
Alors, tu travailles aussi au lancement d'une chaîne française d'information internationale. Je crois que
oui.
Ça, c'était un peu sous l'égide de Jacques Chirac, qui
voilà,
y tenait beaucoup.
Voilà, ça, c'était France 24. Ça a donné France 24.
Tu étais le président du conseil de surveillance.
Absolument.
Que de casquettes, Patrick.
Oui, mais ça, c'est quand, en général, quand on en a une, on en a plusieurs. Ça va,
oui, on va
ça
pas
va ensemble.
Toujours, hein.
Ça,
et puis là...
plus
puis
dur
là,
d'en avoir une, déjà.
Oui, et puis là, bah, mon Dieu, il n'y a pas de vie sans Annie Croche. Nicolas Sarkozy te remplace. J'ai lu que tu étais parti sans indemnité, ce qui n'est jamais très drôle.
Oui.
Et donc, te voilà parti pour d'autres aventures. Et tu as toujours rebondi.
Je raconterai cet épisode-là dans mon prochain livre.
Dans ton prochain livre. Alors, voilà, on va rester sur
le désir.
Absolument, sur le désir. Alors là, à un moment, tu reprends la présentation des Racines et des Ailes. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite, après? Alors, on en est où? Parce que tu as tellement de casquettes, tu fais tellement de choses, qu'à un moment, j'ai un peu l'impression que tu as le don d'ubiquité.
Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs cordes à mon arc, que je fais de la télévision, mais j'ai été élu aussi à l'Académie des Beaux-Arts.
Ce qui est merveilleux. Donc, tu as un bel habit d'académicien.
Voilà,
il faut dire ça pour nos auditeurs suisses.
Une belle épée
au côté. Qui est-ce qui a fait ton épée?
C'est Éric Desmazières, c'est le graveur. Éric Desmazières, qui est un artiste formidable et qui m'a dessiné mon épée, où on retrouve mes symboles, c'est-à-dire la ville d'Arles, l'Arlésienne, la cigale de Provence.
C'est merveilleux.
Voilà. Je te la montrerai.
Oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Écoute, si tu peux nous donner une photo de toi, ou il y en a peut-être sur Internet, comme ça on la mettra,
volontiers,
sur le site de Radio Cité.
L'habit est flatteur, comme on dit.
Bon, je crois que tu n'as pas trop de mal à ce que ce soit flatteur. Je dis ça pour... nous ne sommes pas en télévision, malheureusement. Je dis ça pour les auditrices. Tu es un très beau personnage.
Ah ben, c'est gentil. Et donc, quand je rentre à l'Académie des Beaux-Arts, tu sais, on a quand même des... Ce n'est pas une médaille qu'on donne comme ça. Ah. Il faut aussi avoir des devoirs, avoir des missions et s'engager à l'intérieur de l'Académie. Et donc, j'ai accepté de diriger... pour l'Académie des Beaux-Arts, le musée Marmottan-Monet. Et donc, voilà, une autre casquette, mais elle est inhérente à la fonction d'académicien, puisque seul un académicien peut diriger ce musée.
Alors voilà, il faut expliquer pour les auditeurs qui ne sont pas parisiens, c'est un magnifique hôtel particulier dans le 16e.
C'est l'ancien relais de chasse du duc de Valmy.
Ah, ça, je ne le savais pas. Et alors, en tout cas, c'est le plus grand musée d'art impressionniste au monde. Hein.
C'est de
Monet, en tout cas.
En tout cas, voilà,
Monet.
C'est le premier fonds mondial de Claude Monet.
Claude Monet.
Nous avons plus d'une centaine de toiles.
On a beaucoup parlé de ce musée il y a une vingtaine d'années, quand le tableau majeur
Impression
Soleil-Levant,
qui
est le symbole de l'impressionnisme, avait disparu et a été retrouvé par Madame Balestrasi au Japon.
Voilà, c'est un tableau très important, puisqu'il est le marqueur. C'est lui qui va donner le nom de l'impressionnisme à l'impressionnisme.
Exactement.
Donc c'est un tableau très, très important. C'est un musée, le musée Marmottan-Monet, qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, tout près du Ranelagh, et qui est important parce que non seulement il a ce premier fonds mondial de Claude Monet, il a également le premier fonds mondial de Berthe Morisot, mais c'est un musée de collectionneurs. Il a été créé par Paul Marmottan, il l'a légué à l'Académie des Beaux-Arts, et puis une trentaine de donateurs ont légué des chefs-d'œuvre, des tableaux qui vont à la fois du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, puisque le dernier tableau rentré est un Chagall de 1956, qui est La fiancée au visage bleu, qui est un très beau tableau. Et donc, on a aujourd'hui un éclectisme des fonds. Voilà, on a, avec mes prédécesseurs, parce que c'est l'œuvre continue de l'Académie, on a fait un travail considérable pour moderniser ce musée, et c'est ce qu'on continue à faire. Là, j'ai des gros travaux sur les trois prochaines années pour la climatisation, etc. Et donc, voilà, c'est un travail...
Voilà, donc directeur de musée.
Et voilà, une casquette de plus, comme tu le disais tout à l'heure.
Une casquette de plus, si tu veux bien. On va écouter à nouveau un peu de musique.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire revoir à la Décoère. Je voudrais te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut dans mon jardin d'hiver.
Radio Cité Genève.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Patrick de Carolis. Patrick, on a vu que tu avais d'innombrables casquettes, essentiellement la télévision, essentiellement la presse, mais tu es aussi maintenant, on l'a vu, directeur de musée. Grâce à ton élection à l'Académie des Beaux-Arts, puisqu'il fallait être membre de l'Académie des Beaux-Arts pour diriger ce musée Marmottan, qui est très beau. On va parler d'une exposition qui va se terminer bientôt, donc il faudrait que, si vous venez à Paris, il faut absolument la visiter. C'est la toilette Naissance de l'intime. C'est très beau.
Oui, c'est une idée que nous avons eue de travailler sur cette thématique. C'est une première. Nous avons confié ce travail à Georges Vigarello, qui est un grand historien du corps, et à Nadège d'Agen, l'Anéry d'Agen. Et tous les deux en tant que co-commissaire, ont réalisé une très très belle exposition qui va du XVIe siècle jusqu'au XXe, là aussi, pour montrer vraiment le cheminement et la construction comme ça jusqu'à la salle de bain où avant on se toilettait en... je dirais en commun avec les gens de maison ou avec les invités, c'était collectif, les bains étaient collectifs. Puis après il y a eu l'absence de l'eau parce que il y a eu la toilette sèche, on a estimé que l'eau était impure, donc il fallait surtout pas se laver avec de l'eau. Et puis petit à petit on s'enferme chez soi, on prend les cabinets de toilette, on les crée et l'intimité arrive, du collectif on passe à l'intime, et comme ça jusqu'au 20e siècle on raconte cette histoire qui est très très belle.
Alors,
et avec de magnifiques chefs-d'œuvre.
Magnifique. Et l'exposition est annoncée, enfin est publiée avec une toile d'Eugène Laumont. Alors je t'avoue que j'ai été regarder qui était Eugène Laumont.
C'est illustre inconnu.
Absolument. Mais qui a fait là un chef-d'œuvre.
Qui est au musée de Beauvais. Et on a tenu à ce que cette toile soit là, d'abord parce que c'est une très belle toile.
Très beau.
Et qui exprimait
c'est une
magnifiquement.
Femme, il faut expliquer parce qu'on est en radio.
Alors,
donc,
c'est une femme de dos. Voilà. Elle a son habit qui vient comme ça reposer au bas de ses reins. Et elle est face à un miroir.
Elle est assez potelée, ce qui nous rassure
oui,
toutes.
Oui, elle est là aussi, il y a du désir.
Absolument. Alors le tableau est daté de 1898, je crois.
Oui.
Donc, mais c'est vraiment incroyable parce que ce peintre est totalement inconnu et il a fait une sorte de chef-d'œuvre.
Voilà, c'est un très beau tableau qui est reconnu comme tel aujourd'hui et qui va après, à la fin de l'exposition, repartir dans son musée telle la Joconde.
Absolument. Alors je crois que l'exposition dure jusqu'au 4 juillet. Qu'est-ce que tu prévois après au musée?
Alors après le 11 ou 12 septembre de cette année, nous accueillons, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un musée de collectionneurs. Et nous accueillons une très, très grande collection. C'est la collection de Arthur et Eddie Anloser, qui est en Suisse, à Winterthur, à la Villa Flora. Et pour la première fois, elle vient en France. Et la famille Anloser a choisi le musée Marmottan pour y être exposée.
Ça,
pour
c'est...
nous, c'est un cadeau, c'est merveilleux.
C'est un cadeau, c'est
l'exposition
une grande reconnaissance.
Extraordinaire, parce que la collection est très belle. Beaucoup de nabis, bien sûr, des Huillard, des Matisse, des Valotton, enfin, c'est très très beau. Et nous en sommes très très fiers et elle durera de septembre 2015, on va dire, à février 2016.
Nos auditeurs, évidemment, se feront une joie d'aller revoir ou d'aller voir les toiles qui appartiennent à des compatriotes.
Oui, parce qu'en ce moment, la Villa Flora est fermée à Winterthur. Elle est absolument fermée et la collection est partie à Hambourg. Et la famille a décidé qu'elle irait à Hambourg et à Paris chez nous.
À partir donc de septembre et jusqu'à...
Enfin, pour quelques mois. Oui, février à peu
près. Bon, Patrick, on va aborder maintenant une autre de tes casquettes, un autre sujet. Tu es aussi écrivain, tu as écrit beaucoup de livres, tu as même écrit un livre de poésie.
Oui.
Alors, je voudrais parler de ça, parce que, et à chaque fois, tu ouvres un univers.
L'écriture, pour moi, c'est, je crois que c'est comme la danse et comme le théâtre. Ça me ramène à mon enfance et à la poésie que j'écrivais. Si je devais choisir quelque chose, je crois que je choisirais la poésie.
C'est vrai.
Si je devais tout arrêter et ne garder qu'une activité, ce serait celle de l'écriture poétique.
Alors tu as écrit « Refuge par tant d'orage » en 2009.
Oui, « Refuge pour tant d'orage », c'est un livre que je portais comme ça en moi depuis pas mal de temps et qui est sorti en l'espace de quelques mois au moment où j'étais président de France Télévisions et j'avais besoin le soir de me réserver une heure, deux heures, parfois trois heures la nuit pour moi, tout seul. Au calme, et là j'ouvrais comme ça les vannes pour comme une sorte de récréation que je m'accordais. Et le matin à 7 heures, j'étais debout en pleine forme, j'étais très heureux.
Alors je crois qu'il y a une version CD avec la voix de Pierre Arditi.
Oui, il y a Pierre Arditi qui m'a fait l'amitié de lire ce texte et le livre est accompagné de ce CD. Puis ça a été adapté au théâtre pendant 5 mois par Bérangère Dautin avec Jean-Pierre Michaël.
On va écouter un peu de musique et puis on reviendra tout à l'heure à tes autres ouvrages.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre. pourra partir. Personne ne part aimer jusqu'à la déchirure. Aimer même trop, même mal. Tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Avec Patrick de Carolis, on a abordé maintenant une toute autre casquette. On a abordé ce moment où il a écrit de la poésie, avec ce besoin justement de changer d'univers, puisque la journée était très dense en tant que président de chaîne. Le soir, tu écrivais de la poésie et tu as écrit beaucoup d'autres livres, dont un qui a fait surtout connaître, plus qu'elle ne l'était, Madame Chirac. Conversation avec Bernadette Chirac en 2001.
Ça, c'était le premier, oui.
Oui, ça, c'était, alors, premier, c'était ton premier livre.
Oui, c'était le premier livre qui est en fait une idée commune que nous avons eue avec l'éditrice Muriel Beyer, qui m'a demandé d'écrire à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, tu devrais écrire des livres d'entretien. Et c'est parti comme ça avec Madame Chirac, que j'avais rencontrée.
Ça l'a fait beaucoup connaître. Parce qu'elle était assez inconnue. Elle était assez dans l'ombre de son mari, du grand homme.
Ça a été bénéfique. Et j'ai découvert un personnage très intéressant et très attachant.
Donc ensuite, tu écris Les Demoiselles de Provence.
Les Demoiselles de Provence, ça a été mon premier roman historique. Je l'ai fait là un peu par hasard. Je vais te raconter une anecdote. J'étais à Angers, au château d'Angers. Je visitais ce château pour comme décor de l'émission Des Racines et des Ailes. Et puis, la personne qui me faisait visiter ce musée me dit que les tapisseries de l'Apocalypse qui étaient au mur avaient voyagé à l'époque et suivaient Charles d'Anjou. Et lorsqu'il s'était marié avec Béatrice de Provence en Arles. Alors, ça m'a interpellé. J'ai dit, en Arles, tiens, je n'étais pas au courant de cette histoire.
Chez toi, donc,
et,
je le rappelle.
Chez moi, voilà. Mmh. Et je me suis un petit peu penché sur l'histoire. En fait, la personne s'était trompée. Ce n'était pas en Arles qu'il s'était marié, mais à Aix.
Ah oui.
Mais j'avais connu la quatrième des filles du comte Raymond Béranger V, les quatre filles qui allaient devenir quatre reines européennes.
Alors, après ce livre d'histoire, alors on change complètement, c'est la Dame du Palatin.
La Dame du Palatin. Mais la Dame du Palatin, on reste à Arles, parce que la Dame du Palatin, elle s'appelle Paulina Pompéus. Et Paulina Pompéus est une Arlésienne. Elle est née en 26 après Jésus-Christ, et elle va passer comme ça 23 ans à Arles. Elle est la petite fille d'un armateur, Paulinus Pompéus. Arlésien, Arles à l'époque est un port fluvial. Arles, c'est Arlate, et Arlate, ça veut dire la ville près des étangs. Et on construisait des barges à fond plat, c'est très important. Et donc, sa famille était une famille d'armateurs qui construisait des barges.
Et elle a la chance de croiser Sénèque.
Voilà, et à 23 ans, elle va croiser Sénèque, le plus grand personnage à l'époque, le plus important, le plus puissant, le plus riche après après l'empereur, et à l'époque, l'empereur, c'est Néron. Elle va se marier avec lui, c'est sa deuxième femme, la première est morte en couche, et elle va vivre 14 ans auprès de Sénèque, sous Néron, avec Agrippine, et elle va découvrir cette ville extrêmement cruelle à l'époque. Voilà, et c'est cette petite provinciale qui va vivre, qui va être prise dans la tourmente de son siècle, qui m'a ému, et en plus elle était arlésienne, donc j'ai voulu qu'on rende hommage à ce personnage, qui n'est jamais cité d'ailleurs quand vous... À Arles, on parle bien sûr de Marius, pas le Marius de Pagnol, mais le Marius, celui qui a construit le canal. On parle de César, on parle des Romains, bien sûr... Mais on ne parle pas de Paulina Pompeius, qui a été une femme qui a porté Arles jusqu'à Rome.
Alors, changement complet d'époque et de décor. Tu écris en 2014 un livre sur la mère de l'empereur, Laetitia Bonaparte, vue à travers les yeux de deux journalistes qui viennent lui rendre visite alors qu'elle est une vieille femme recluse dans son palais à Rome. Je veux dire que ça m'a beaucoup ému, ce livre.
Alors ça, c'est un l'idée, j'ai eu l'idée en bien sûr, au moment où je suis entré à Marmottan, parce que mon prédécesseur avait préparé une exposition sur les trois sœurs de Napoléon, qui était très belle. Et j'ai dit, mais il manque la quatrième femme. Et la quatrième femme, c'est la mère. Et j'ai trouvé qu'il fallait que je comble l'absence. Et j'ai découvert un personnage extraordinaire. Parce qu'on a l'habitude de représenter Laetitia Ramolino Bonaparte. C'était sa mère s'appelait Ramolino. Enfin, son père s'appelait Ramolino, puisque sa mère était une Pietrasanta. Mais on a l'habitude de la représenter avec l'aspect sévère, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle est déjà impératrice. Donc, elle a
ce côté... Et la femme corse est toujours sévère,
voilà,
quand
alors que c'était une jeune fille pétulante, vraiment avec une énergie extraordinaire, belle. Tu sais que à l'époque, quand elle avait 14 ans, les vicaires d'Ajaccio disaient que sa beauté engendrait plus de conversion que les saints de l'Église. Donc elle était belle. Et j'ai voulu rendre hommage à cette femme qui était une femme déracinée. Parce que son destin et son horizon, pour elle, n'allait pas plus loin que la Corse, et elle se serait imaginée toute sa vie en Corse, s'il n'y avait pas eu la Révolution, le retour de Paoli, le destin de son fils Napoléon, qui l'a emmené en dehors de la Corse, qui l'a emmené après jusqu'à l'exil en 1815, où toute la famille a été exilée. Et donc, c'est donc cette femme déracinée qui disait... Il n'y a rien de plus pénible, de plus dur, de plus douloureux que l'exil, parce qu'on vous arrache tous les membres, on vous démembre de toutes vos attaches, on vous arrache le cœur. C'est ça l'exil, et c'est ce qu'elle vit pendant plus de 20 ans à Rome.
En tout cas, c'est un très beau livre. Moi, je le recommande à
Merci.
Tous nos auditeurs. J'ai vu aussi que tu es le directeur de la bibliothèque de Marmottan et que c'est le fonds français le plus important sur Napoléon.
Oui. Oui.
Formidable, ça aussi.
Alors, c'est une très belle bibliothèque qui est à Boulogne-Billancourt et qui est principalement gérée par la commune de Boulogne-Billancourt, mais nous en avons la responsabilité du fonds.
Voilà. C'est formidable. Patrick, on arrive malheureusement un peu à la fin de cette émission. Déjà, et on est allé, je sais pas, on est allé tellement vite et on est passé sur tellement de moments que j'aurais aimé approfondir avec toi. Je t'inviterai une autre fois.
Volontiers.
J'aimerais savoir tes projets immédiats avant que nous nous quittions.
Immédiat, je vais essayer avec mon épouse Caroline d'adapter le livre Laetitia Ramolino Bonaparte en pièce de théâtre. J'aimerais porter ce personnage en pièce
projet,
de théâtre.
Ça.
Oui. Ça, j'aimerais le faire. Après, j'ai commencé déjà l'écriture d'un livre de souvenirs sur la télévision qui paraîtra sans doute l'année prochaine, en 2016. Et puis, continuer à faire, essayer de faire quelques belles expositions pour le musée Marmottan-Monet. Et puis, peut-être continuer à faire mon métier d'homme de télévision. Voilà, donc je réfléchis à quelques projets et puis on verra comment ça se passe.
Patrick, c'est encore une fois, tu as le don d'ubiquité, tu as tant de casquettes, tu les as toutes exercées avec énormément d'allure, énormément de professionnalisme, un enthousiasme sans faille. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio-Cité.
Et j'aime beaucoup le titre de ton émission.
Merci beaucoup, la bouteille à moitié pleine, absolument.
Ça, c'est de l'optimisme.
Absolument, c'est l'optimisme. Alors, je te remercie beaucoup. J'espère que tu y reviendras devant notre micro pour la suite de ces innombrables aventures que tu nous as fait vivre aujourd'hui.
C'est par la fin que tout commence.
Absolument. Et puis on remercie aussi Jackie Elzesser qui enregistre cette émission. À bientôt
Merci.
Pour d'autres aventures. Au revoir Patrick.
Au revoir.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt, la bouteille à moitié pleine.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches, et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous? Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver et la neige à mon cou, que je perde patience et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mes temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, jamais vous n'étiez au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Mais le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais je revenais quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux, le premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même, vous en souvenez-vous? À nous regarder sourire, à nous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu vous le dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.